La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, la France bouge. Dans ce contexte inédit, il y a des femmes et des hommes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Ici, vous découvrez des patronnes et des patrons de grands groupes français qui traversent la crise en innovant et en bâtissant le monde de demain. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Bus, métro, vélo, trottinette, notre mobilité se réinvente et les acteurs français se mobilisent. Pour être aux avant-postes, Transdev est un des leaders mondiaux du secteur. Thierry Mallet, son PDG, est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, en effet, Emmanuel, la mobilité, c'est aussi pouvoir trouver des places de parking sans tourner pendant des heures. Parking Map, une application qui vous trouve une place en quelques clics. Explication avec son fondateur dans quelques minutes.
Une marque qui est presque devenue un nom commun. Il y a 110 ans, le Solex naissait. C'est finalement un peu l'ancêtre du vélo électrique. Solex, notre saga du jour, à 13h30.
Et bien sûr, les trophées Europe 1. Nous avons retenu aujourd'hui la lessive de Paris. Une lessive zéro place. Zéro camion, zéro déchet, tout est propre. Le fondateur va-t-il convaincre notre patron du jour ? Réponse à 13h50.
En fin d'émission demain au travail, le télétravail enjeu de société et enjeu environnemental. Sistancia propose un jour télétravailler pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. On verra ça à la fin de l'émission.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et pour la première fois, Europe 1 fait une émission totalement masquée. C'est la France bouge sera la première émission de l'histoire d'Europe 1 à tenter cette aventure pour respecter, bien évidemment, avec nos invités, tous les gestes barrières.
Nos invités qui sont masqués aussi.
Qui sont masqués. Tout le monde est masqué. C'est pas le bal masqué. On va essayer quand même de faire une émission qui soit une émission positive parce que la France bouge. Hein, c'est l'émission de toutes ces initiatives qui font bouger la France. C'est la semaine en ce moment de la mobilité. Comment nous nous déplaçons depuis le début de la crise sanitaire et comment allons-nous nous déplacer demain ?
Et on va en parler avec vous, Thierry Mallet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Transdev et président de l'Union des transports publics et ferroviaires. Alors Transdev, c'est un groupe français, une multinationale qui emploie plus de 80 000 personnes, qui transporte plus de 11 millions de passagers chaque jour. Transdev, ce sont des bus, des trains, des lignes de métro ou encore des vélos. C'est la rentrée, on le sait, hein, nous sommes en pleine crise sanitaire. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Comment se portent les transports publics aujourd'hui ?
Alors, les transports publics, ils ont pleinement joué leur jeu et Transdev l'a fait aussi pendant la crise. Pendant le confinement, on a continué d'assurer des services. On était entre 30 et 50% pour assurer le transport des soignants, le transport des activités qui sont maintenues. Et depuis la sortie du confinement, on est remonté très rapidement à quasiment 100% d'offres partout. D'abord, pour respecter les gestes barrières, sortie du confinement, on avait à peu près 20%. À la fin, je dirais, du premier semestre, fin juin, on était à peu près à 50% de fréquentation, 100% d'offres, tous nos véhicules roulaient, mais uniquement la moitié des passagers étaient revenus. Et en ce début, en ce début de reprise, fin septembre, on est plutôt entre 60 et 80 suivant les réseaux. Alors, on voit que ça commence à fléchir un tout petit peu avec la reprise de la pandémie.
Justement, parce que les gens sont à nouveau de plus en plus en télétravail, c'est ça qui explique en grande partie qu'on soit encore assez loin des 100%.
Alors, il y a trois raisons. Vous l'avez évoqué, il y a le télétravail qui fait qu'effectivement les gens ne se déplacent pas aussi fréquemment que d'habitude. Il y a une deuxième raison, c'est que la marche et le vélo se sont beaucoup développés. Ils ont vraiment explosé pendant en sortie de confinement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la troisième raison, c'est qu'il y a une vraie peur des transports publics et on a vu un report massif vers la voiture. Hein, parce que la voiture, par contre, elle, et la circulation routière, elle est à la même situation qu'elle l'était avant la crise du Covid. Donc c'est, clairement, on a eu beaucoup de personnes sont retournées vers la voiture. Et on a d'ailleurs fait des sondages chez Transdev et on aperçoit que 17% des gens qui avaient l'habitude de voyager avec nous se posent la question de revenir avec nous et préfèrent la voiture parce qu'ils ont peur. Or, nous avons fait la preuve aujourd'hui, c'est un élément important, que les transports publics, c'est sûr. Aujourd'hui, moins de 1% des clusters sont dans les transports publics parce que dès le début, on a porté le masque, on a joué le jeu de la désinfection et on a également mis à disposition du gel hydroalcoolique partout, soit dans les véhicules, soit dans les gares, soit dans les stations.
Mais les citoyens pensent, j'imagine, aux heures de pointe où on est serré hein, comme des sardines les uns contre les autres. Certains portent le masque sous le nez, hein, on le sait, et on ne va pas tout le temps faire la police et dire non, remettez votre masque. Donc là-dessus aussi, il est possible qu'ils aient une certaine crainte, une certaine appréhension.
La crainte, on la comprend d'ailleurs. Mmh. Et on va essayer de rassurer au maximum. L'enjeu de cette semaine du transport public, c'est de rassurer sur le fait que le transport public est un lieu sûr.
En ce moment.
Et jusqu'à maintenant, on l'a démontré parce que les mesures qui ont été mises en place ont montré effectivement leur efficacité. Et le port du masque reste quand même très très respecté. Et le fait que d'ailleurs ce ne soit plus simplement dans les transports publics qu'on le porte aide beaucoup d'ailleurs à faire respecter le port du masque.
Juste une petite question là-dessus, sur les incivilités. Il y avait bien évidemment eu un drame hein, cet été à Bayonne avec un chauffeur qui avait trouvé la mort après une altercation. Vous, chez Transdev, l'un des leaders hein, du transport public en France, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des problèmes d'incivilité à cause du port du masque ?
Alors, c'est vrai que le port du masque, ne pas porter son masque, c'est un acte très antisocial, puisque quelque part, ça veut dire que le masque, finalement, il protège l'autre. Donc c'est très très important, et le fait que les gens ne portent pas le masque entraîne des réactions beaucoup plus sensibles et beaucoup plus violentes que celles de ne pas payer, d'être simplement un fraudeur. Et donc c'est clair que ça reste un point de tension dans les réseaux, même si c'est effectivement très très peu de cas, ça peut effectivement dégénérer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé le soutien des forces de l'ordre pour pouvoir intervenir plus rapidement. On est en train de former nos équipes, nos chauffeurs, les équipes d'intervention pour justement éviter que ça dégénère.
Alors Thierry Mallet, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette nouvelle façon de prendre les transports, hein, compte tenu du contexte sanitaire, on va davantage vers plus de mobilité choisie, c'est-à-dire que les horaires ne sont plus forcément les mêmes que les horaires d'avant la crise, d'avant le mois de mars.
Ah oui, alors ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Parce que si demain, finalement, on perdait 20% de nos passagers, il y a deux possibilités. Soit ça veut dire que s'ils ne sont pas tous partis vers la voiture, et c'est ça, on va se battre pour qu'ils reviennent dans les transports publics. S'ils ont fait le choix, effectivement, de télétravailler ou de voyager à des horaires différents, ça va être de la mobilité choisie, plus de la mobilité suivie. Ça peut être moins de personnes en heure de pointe et donc une meilleure qualité pour ceux qui vont continuer de voyager en heure de pointe. Et c'est aussi la possibilité, probablement, de redistribuer l'offre. Parce que si on a des lignes où il y a moins de monde, on peut peut-être aussi renforcer les lignes où il y a beaucoup de monde. Et donc, globalement, on va avoir un gros travail de reconfiguration parce que l'après-Covid ne sera pas la même chose que ce que nous avions avant.
Évidemment.
Quand vous dites là à l'instant, on va se battre pour les faire revenir. Comment, concrètement, vous allez réussir à les faire revenir ? On est la France bouge, on voit toujours le verre à moitié plein ici.
Ah ben là, on le fait d'abord en rassurant sur le fait que les transports publics, c'est sûr. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est effectivement notre discours, c'est le discours qu'on porte. On l'a fait aussi en démontrant et en montrant plus les activités de désinfection. Tout ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien pour faire en sorte que les transports publics soient un lieu dans lequel il n'y a pas de contamination. Et donc, c'est ce type de message qu'on souhaite faire. Lors de la semaine de la mobilité, il y a eu des opérations de gratuité sur certaines lignes, de billets à tarif réduit pour que les gens reviennent.
Regardez comment ça se passe.
Voilà, ça marche. Comment ça se passe. Vous avez l'impression que ça marche un petit peu ?
Ça marchait un peu juste avant la reprise. Aujourd'hui, on incite de nouveau à repartir vers le télétravail. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait de nouveau une baisse, effectivement, un peu dans les transports publics. Mais on va jouer notre rôle et on va tenter de les faire revenir. L'enjeu, c'est d'être prêt, surtout pour l'après-Covid, hein, puisqu'on pense que le Covid ne va pas être éternel. On est dans une crise sanitaire. On joue le jeu. La santé de nos passagers et de nos équipes, c'est notre première priorité.
En tout cas, nous, on vous fait rester, Thierry Mallet, PDG de Transdev. Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge sur Europe 1 avec cette semaine et aujourd'hui à la une, la semaine de la mobilité. Nous sommes avec notre patron du jour, le PDG de Transdev, Thierry Mallet.
Et avec vous aussi, Henri Delaporte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Parking Map. Parking Map, c'est une start-up qui existe déjà depuis 9 ans, qui offre des solutions de stationnement. Mais là, depuis quelques jours, vous avez lancé une appli, c'était le 16 septembre. L'objectif avec cette appli, c'est de construire, vous le dites, une nouvelle mobilité urbaine. Ça veut dire quoi ?
Tout à fait. Alors Parking Map, à l'origine, c'est une société que j'avais créée avec l'idée de donner une information pertinente sur la disponibilité du stationnement. Et avant que l'automobiliste ait cette information, il faut que le gestionnaire, qui est le propriétaire du service, parce que le stationnement appartient à une ville par exemple, sache comment ça fonctionne. Et on s'est très rapidement rendu compte que les élus, que les mairies, que les gestionnaires n'avaient pas vraiment une vraie notion de ce qui se passait concrètement sur leur stationnement. Donc on a développé un logiciel pour leur donner cette information-là. Et quand ils ont vu cette information, ils nous ont dit « Mais est-ce que vous êtes capable d'agréger d'autres données que la pure disponibilité ?» Et c'est là où on a commencé à travailler sur les données de transport en commun, entre autres. Et c'est cette application qu'on a lancée jeudi dernier à Grand Paris Sud. C'est une application qui s'appelle Modality, qui vous permet, pour un automobiliste, de dire « Je pars de tel endroit, je vais aller à tel endroit, je pars en voiture. » Eh bien voilà quel est le meilleur trajet multimodal comprenant la voiture, le train, bientôt la trottinette ou tout autre transport.
Oui, c'est ça qui est très intéressant dans votre solution, ça s'adapte totalement aux nouvelles mobilités, c'est-à-dire qu'on partage maintenant de plus en plus notre façon de voyager. Justement, alors même si c'est très récent, hein, votre lancement, vous voyez que les gens utilisent peut-être sur de plus longs trajets la voiture et récupèrent une gare un peu plus loin quand ça devient par exemple totalement indispensable ?
Alors, déjà, le fait de se garer, c'est plus une finalité en soi. Il y a 5 ans, on prenait sa voiture, on partait de chez soi, on allait à son rendez-vous et on se garait le plus proche de son rendez-vous. Aujourd'hui, se garer, c'est une étape dans un trajet. Donc, vous allez prendre votre voiture, vous allez vous garer à une gare, vous allez prendre un train, puis après, une trottinette, puis vous allez terminer à pied. Et on s'est rendu compte, Grand Paris Sud nous a fait faire une expérimentation il y a 4 ans, et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui prenaient la voiture, qui allaient se garer à une gare, et puis qui ne trouvaient pas de place, et donc ils se rapprochaient de Paris. Et à l'inverse, si vous reculiez, si vous éloignez, là vous aviez une place, et vous trouviez un transport en commun assez facilement. Donc c'est là où on a voulu développer cette application, pour rendre facile le fait de se déplacer.
Quand vous préparez cette application, hein, vos équipes ont cartographié les parcs de stationnement de 17 gares hein, du Grand Paris Sud pour aider les voyageurs. Vous pensez à qui ? Vous pensez aux personnes qui travaillent, qui doivent prendre des transports en commun ? J'imagine que vous aviez une cible à l'origine.
Alors, la cible à l'origine, c'était effectivement les personnes qui travaillent, qui vont à Paris et surtout les personnes qui reviennent. Parce que vous partez travailler à Paris, bon, vous savez quand est-ce que vous partez, vous savez que vous avez rendez-vous, en général, ça va. Mais le pire, c'est quand vous revenez le soir, que la ligne, pas de bol, il y a un bus qui est en retard ou que le RER est en retard.
Vous nous le dites que la ligne, que le bus est en retard ?
Eh ben, on a les horaires effectivement en temps réel d'IDFM. Donc en fait, on sait très bien tout ce qui se passe sur les réseaux et le but, c'est de donner l'information la plus pertinente.
Vous le faites hein, pour le moment sur 17 gares du Grand Paris Sud, comme on dit. Donc là, on est en banlieue parisienne notamment. Vous allez vous développer dans d'autres grandes métropoles. Vous pouvez comme ça l'adapter maintenant que finalement, vous avez la technologie, si on peut dire.
Alors, on l'a lancé en même temps dimanche dernier à Clermont-Ferrand. Ça a été lancé à Clermont-Ferrand. Et puis aujourd'hui, la technologie, on l'a. On est un agrégateur de données. Donc, il suffit d'agréger un peu plus de données.
Villes, hein.
Et donc, on pourrait travailler typiquement sur le Grand Paris, par exemple. Mmh. Parce qu'on a fait Grand Paris Sud, mais il y a tout le reste du Grand Paris.
Mais alors ça, c'est pour le stationnement, quand on a une voiture. Mais est-ce que vous comptez faire la même chose pour d'autres mobilités ? Est-ce que pour les trottinettes, pour les vélos électriques ? Est-ce que vous allez élargir votre gamme ?
Le but, justement, c'est qu'à terme, on élargisse la gamme, on soit capable d'agréger toutes les données sur les mobilités. Donc, on est en train de discuter avec différents acteurs pour les trottinettes, pour les vélos. Et puis, demain, on verra les nouvelles mobilités qui sortiront.
Thierry Mallet, je rappelle que vous êtes le PDG de Transdev, l'un des leaders du transport public en France et dans le monde. Est-ce que ce genre d'application, c'est totalement complémentaire à ce que vous faites ? Parce que vous aussi, les données numériques pour savoir à quelle heure arrivent vos bus et puis surtout, comment aussi on peut prendre un bus, on peut prendre un vélo, on peut prendre une trottinette, ça devient capital dans votre métier.
Alors, tout à fait. Alors, Transdev, d'abord, est opérateur de stationnement. On gère aujourd'hui en France plus de 100 000 places de parking. Hein. Donc, c'est à côté de la mobilité, parce qu'on considère qu'effectivement, ça a été très, très bien dit, la place de parking n'est de plus en plus qu'un intermédiaire et pas simplement un point d'arrivée ou un point de départ. Et donc, il y a vraiment un intérêt à l'intégrer dans la solution de mobilité. Et d'ailleurs, ce type de solution qu'on appelle Mobility as a Service est un complément, puisque ça vient compléter effectivement l'offre de mobilité de transport public.
Et parce ça doit faciliter surtout la vie des voyageurs. Vous aussi, vous allez développer, j'imagine, des applications qui permettent d'être comme ça.
Moi, d'abord, j'ai envie de continuer de parler avec vous parce qu'on vient de lancer cette semaine à Saint-Étienne une application qui s'appelle Moveasy qui permet, avec une application de la même manière, d'avoir sur une seule application les taxis, le métro, le train, les bus, également les parkings et les vélos en libre-service.
Donc vous êtes concurrent.
Donc on est concurrent, peut-être partenaire demain, parce que l'idée c'est plutôt de travailler en partenariat, parce qu'on a exactement la même approche qui consiste à faire effectivement ça pour le compte des villes et non pas comme un opérateur externe.
Mais c'est un défi pour vous parce que convaincre les gens de prendre les transports en commun, si on prend par exemple l'exemple de l'Île-de-France, mais c'est vrai dans toutes les grandes métropoles, c'est être sûr qu'on va avoir ces moyens de transport et qu'on va être à l'heure. Donc mieux informer en temps réel, c'est capital pour les pousser à revenir vers vous en leur prouvant qu'ils vont mettre moins de temps qu'en voiture ou quelque chose comme ça.
Tout à fait, parce que ce type d'application vous permet de comparer ce que vous allez faire en voiture, si vous le prenez d'un bout à l'autre, si vous décidez au milieu d'aller vous garer pour prendre le train, ça vous fait apparaître toutes les offres de transport public. Donc vous allez pouvoir choisir. Un jour, vous allez faire le choix d'être automobiliste jusqu'au bout. Le lendemain, vous allez faire simplement une partie du trajet en voiture.
L'idée, c'est de pouvoir avoir le choix entre la voiture, le train, le bus, et en ayant toutes les informations en temps réel.
Oui, ce n'est pas de l'individualisme, c'est de l'individualisation des trajets. Chacun a un besoin de trajet différent et il faut répondre de manière différente. Et ces applications, et bravo, permettent effectivement de répondre en temps réel à ses besoins, parce que ces réseaux sont de plus en plus compliqués, quelqu'un ne peut pas les comprendre. Moi-même, qui ne suis pas parisien, j'avoue que sans application, je ne peux pas prendre les bus à Paris.
Thierry Mallet, PDG de Transdev, vous restez avec nous. Merci à vous, Henri Delaporte.
Merci beaucoup.
Ça s'appelle Parking Map et vous en êtes le fondateur.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et comme chaque jour avec Elisabeth, on est très heureux d'être à vos côtés jusqu'à 14h sur l'antenne d'Europe 1 dans cette France bouge pour mettre en avant les initiatives qui fonctionnent et qui transforment aujourd'hui déjà le monde et qui se préparent au monde de demain. Aujourd'hui, on parle des transports publics avec vous, Thierry Mallet, le PDG de Transdev. Alors, on a vu que c'était un poil compliqué aujourd'hui. Vous êtes confiant sur le fait que quand même, vous allez réussir à réinventer la mobilité. Et notamment, dans cette réinvention de la mobilité, il y a l'électrique avec notamment les bus électriques. Vous en avez déjà 1000 aujourd'hui, je crois que vous voulez en avoir 2400 d'ici à la fin de l'année. Et ça devient une réalité parce que c'est tout bête, mais ça devient aujourd'hui compétitif pour vous d'utiliser des bus électriques à la place de nos bons vieux bus diesel.
Alors le bus électrique, effectivement, alors le bus électrique à batterie, hein, parce qu'il y a deux types de bus électriques, on aura ceux à hydrogène, on peut en parler aussi, puisqu'il y a le plan de relance. Mais le bus électrique à batterie devient une réalité, notamment dans les centres-villes. Hein. Parce qu'effectivement, c'est un moyen de se déplacer dans lequel on a une très très bonne qualité de service. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration et il n'y a évidemment pas d'émissions sur le lieu auquel le bus se déplace. Et donc, c'est une réalité de plus en plus, aussi bien d'ailleurs en France, mais que dans le reste de l'Europe.
Vous, vous en avez 1 000 000 de bus électriques, 2 400 d'ici à la fin de l'année. Vous, très clairement...
Ça sera plutôt 1 400 à la fin de l'année que 2 400.
Alors, 1 400, voilà, on voit grand ici. Voilà. Hein, c'est comme ça, la France bouge. Et c'est une solution qui est en train de devenir de plus en plus compétitive.
Alors, c'est une solution qui reste plus chère que le bus classique. Hein. On a à peu près 40% de prix en plus. Mais c'est effectivement une solution... Et ce surcoût, on arrive à l'absorber par la qualité de service. On voit bien que quand on a des bus électriques, généralement, il y a plus de fréquentation. Ah ça, oui, c'était pré-Covid, parce que la qualité de service est meilleure, parce que ces bus ont une image différente. Quand on a lancé nos bus, notamment la première grosse flotte aux Pays-Bas autour de l'aéroport de Schiphol avec près de 100 bus, on a augmenté la fréquentation de 15% très rapidement, parce que ça a attiré les jeunes et le bus, qui a parfois une image un peu ringarde, avait une image moderne.
Ah oui, c'est marrant. Alors, est-ce que ça marche aussi pour le vélo électrique, hein, parce que vous êtes également un opérateur, notamment ici en Ile-de-France, vous faites partie du consortium Véligo, qui est une solution de location de longue durée de vélos électriques. Ça aussi, pour vous, dans un groupe de transport comme vous, c'est l'avenir, les vélos électriques ?
Alors, le vélo électrique, pour moi, c'est une grande révolution parce que ça modernise complètement le vélo. Ça permet d'avoir des distances supplémentaires par rapport à ce qu'on pouvait faire. Un vélo, c'était plutôt moins de 5 km. Là, on peut aller à 7, 8, 9, 10 km avec un vélo électrique en déplacement quotidien.
Le gouvernement dit que dans son plan vélo, on peut même imaginer que jusqu'à 30 km, ça puisse être une solution. Ça vous paraît plausible ?
C'est possible que des gens l'utilisent jusqu'à 30 km. Je ne pense pas que ça sera le gros de la population qui va l'utiliser sur ces distances-là. Mais je pense que probablement jusqu'à 10 km, c'est une solution. Et je pense que c'est une vraie révolution. Donc, on l'intègre dans nos offres de mobilité. Nous ne sommes pas fabricants de vélos, mais c'est moins un élément clé de la chaîne de valeur et de la chaîne de déplacement de demain.
Alors, Transdev accompagne aussi les collectivités hein, dans l'organisation, dans les infrastructures de la mobilité. Là, avec les élections municipales, on a vu qu'il y a beaucoup de villes qui ont remporté des mairies vertes. Hein. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Parce que ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de contrats et beaucoup plus de choses à faire.
Je pense que, d'abord, effectivement, pour toutes les villes aujourd'hui, qu'elles soient écologistes ou non écologistes, la mobilité est devenue une priorité. On voit bien que c'est une des préoccupations principales des Français. D'abord, parce que la mobilité, ça coûte cher. Je voudrais juste citer un chiffre. Aujourd'hui, la mobilité, et on avait fait une enquête avec Région de France après Covid, la mobilité, ça coûte aux Français 215 euros par mois. Donc, le fait de trouver des solutions qui permettent effectivement la mobilité soit moins chère est important. Et ce coût de mobilité très élevé, il est lié à l'usage de la voiture. Mmh. Ça veut dire que dès qu'on sera capable d'avoir des solutions qui sont des alternatives à la voiture, on va pouvoir permettre aux Français de réduire ce coût-là et d'utiliser cet argent pour mieux vivre.
Mais ça veut dire que, par exemple, en trouvant des solutions plus innovantes, on parle des mairies vertes, comme le disait Elisabeth, mais dans toutes les villes, on voit aujourd'hui que c'est une préoccupation. Vous pensez que vous êtes capable de faire baisser ce coût en bloquant, d'une certaine manière, les gens à utiliser leur voiture ?
Alors, on va
il
pas
faut
bloquer.
En arriver là ?
Le but, ce n'est pas de bloquer les gens. Le but, c'est de leur proposer une alternative à la voiture. Le transport public, généralement, ça coûte bien moins cher que la voiture, mais les gens ne prennent pas la voiture ou le transport public pour le prix, ils le prennent en fonction de la du caractère pratique. Je vais vous simplement vous donner un exemple en Allemagne. On parle beaucoup des petites lignes. En Allemagne, on a repris les petites lignes dans la province de Düsseldorf. Il y avait 500 personnes par jour. On a commencé à améliorer le service. C'est-à-dire qu'on démarre à 6 heures le matin, on termine à 22 heures. On a maintenant des trains toutes les demi-heures. On est passé à 23 000 personnes. Le choix du transport public, c'est le choix de l'efficacité parce que vous êtes sûr de trouver votre transport. Et le transport public, ça coûte toujours moins cher que la voiture.
Justement, on peut parler de trains. Vous êtes là, vous citez l'exemple de l'Allemagne. Ça fait 25 ans que vous opérez des trains en Allemagne. Les TER vont être mis en concurrence dans les régions, notamment dans les régions du Sud, mais également dans les Pays de la Loire et ce genre de choses. On sait que là, les présidents de régions sont très intéressés. Vous êtes très intéressés. De façon très concrète, qu'est-ce que vous promettez de faire mieux que ce que fait aujourd'hui la SNCF ?
Nous, notre première priorité, ça va être la qualité de service, s'assurer qu'on a un meilleur service à un coût inférieur. Parce que c'est effectivement notre savoir-faire en Allemagne, par une organisation du travail différente, par une motivation différente des équipes. Nous pensons que nous pouvons amener effectivement en France ce que nous avons fait en Allemagne. Aujourd'hui, la réalité en Allemagne, c'est que le train kilomètre coûte la moitié de ce qui coûte le train kilomètre en France. Donc notre proposition, c'est que pour le même prix, demain, on fera rouler beaucoup plus de trains et on aura beaucoup plus de monde à bord, avec une meilleure qualité.
Alors Thierry Mallet, vous faites aussi des vélos électriques et je pense que vous savez que vous connaissez Solex.
Oui.
Et ben Solex, c'est un petit peu l'ancêtre du vélo électrique.
J'en ai eu un.
Ah, voilà, ça tombe bien parce qu'on va en parler. C'est notre saga du jour aujourd'hui dans La France Bouge. Avec vous, Grégory Trébaol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'EasyBike et EasyBike est à l'origine de la relance de Solex. Alors on va un petit peu revenir en arrière parce que Solex, c'est une longue histoire qui démarre en 1908 avec deux hommes.
1905 exactement, avec Goudard, Monsieur Goudard et Ménesson, qui à l'époque on était peut-être un petit peu déjà dans les bus, puisque leur première idée de départ était les carburateurs. Carburateurs pour des bus. Ça n'a pas été franchement un très gros succès jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Début de la Deuxième Guerre mondiale. Goudard et Ménesson se disent, on va peut-être arrêter nos carburateurs de bus et on va réfléchir à la mobilité. Donc on parlait déjà de mobilité. Et dans les années 38-39, ils imaginent ce qui a été le succès de Solex, un deux-roues motorisé, mais qui s'appelait un vélo-moteur.
Est-ce que c'est vrai cette histoire qu'Elisabeth m'a racontée quand on a préparé l'interview? Pendant la guerre, un échantillon de Solex est confisqué par la Wehrmacht. Il paraît qu'un officier a roulé pendant 5 ans, tous les jours, avec le prototype du fameux Solex. C'est vrai c'est la légende?
Non, alors c'est pas une légende. Vous avez également des courriers qui montre ces échanges-là. Alors, il n'a pas confisqué le Solex et est parti, il a occupé l'usine, en tout cas l'atelier de Goudard et Ménesson en région parisienne, et pendant 5 ans, effectivement, il a roulé avec. Et en 1946, donc ce qui explique aussi le pourquoi du 1946 aujourd'hui, Goudard et Ménesson lancent leur premier vélo à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale en disant « on révolutionne un petit peu la mobilité et on va offrir des solutions de mobilité à tout le monde ». Et la preuve en est, ce prototype est vraiment efficace, puisqu'un officier allemand de plus d'1m90, 92 kilos, a roulé pendant 5 ans, tous les jours, par tout temps.
Bah donc Solex, c'est l'inventeur de la mobilité douce, et pour tout le monde.
Voilà.
Puisque vous dites qu'il faisait 1m90.
À la reprise de Solex par le groupe EasyBike, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va relancer un petit peu Solex dans la mobilité. Par contre, effectivement, on n'a rien inventé par rapport à tout ce qui existait à l'époque, à savoir... la mobilité. Alors, aujourd'hui, on parle de mobilité électrique. Mmh. On en parlait tout à l'heure aussi bien sur les bus, etc. À l'époque, Solex a voulu offrir des solutions de déplacement et on ne parlait pas de vélo taf, on parlait de juste un véhicule pour se déplacer, mais ça permettait de se déplacer domicile, travail, tous les jours et pour tout type de personnes.
Solex était plutôt considéré comme une petite mobilette à l'époque. Aujourd'hui, ce serait un survélo électrique ?
Alors, pas un survélo à assistance électrique. On a lancé, pas plus tard que le dimanche, lundi, mardi, pour la semaine de la mobilité, une réplique exacte du modèle 1946, celui dont on faisait...
Et c'est exactement le même ?
C'est vraiment exactement le même type de cadre. Le moteur, forcément, n'est plus sur l'avant du vélo, on est en motorisation électrique pour vivre dans notre époque. Mais c'est vraiment la réplique du 1946, et donc c'est le Solex intemporel qui a été découvert la semaine dernière au salon Ever Monaco et au Pro Days cette semaine.
Et puis vous avez aussi travaillé avec Transdev, notamment sur le vélo électrique. Vous avez déjà travaillé ensemble, Thierry Mallet ?
Alors, Dans une vie antérieure, Transdev était opérateur de transport, comme ils le font dans beaucoup de villes. Mmh. Et, Monsieur Mallet l'évoquait, ils ne sont pas constructeurs, ils ne sont pas fabricants de vélos, mais ils sont utilisateurs. Et dans les solutions multimodales qui étaient proposées dans certaines villes, faisaient état d'une gestion d'une flotte de vélos électrique qui avait été fabriquée.
Et chez Transdev, vous pourriez rajouter une flotte de Solex ? Ça vous fait rêver, là ?
Ah ben, pour autant qu'il soit électrique, hein, parce que l'enjeu, c'est l'électricité. Mais de fait, effectivement, on adore collaborer avec des opérateurs et des fabricants de vélos, hein, puisque notre métier, c'est pas d'être un fabricant. Nous ne fabriquons pas de bus, nous ne fabriquons pas de train, non plus de vélos, mais c'est de travailler avec des start-up ou des entreprises qui, effectivement, fournissent des vélos électriques. On voit effectivement se dégager deux modèles. Il y a le modèle du libre-service, hein, ce qui est Vélib à Paris, et puis le modèle de plus en plus de la location longue durée, ce qui permet effectivement, de tester le vélo, de comprendre comment il marche avant de faire sa première acquisition, parce que généralement, ces locations longue durée, elles sont pour des périodes qui vont de quelques mois à parfois un an maximum, mais elles permettent de tester le vélo électrique, parce que c'est un investissement important, et ça permet effectivement de voir comment on l'intègre dans sa vie courante, dans sa mobilité, avant de l'acheter.
Merci à vous, Grégory Trébaol, directeur général d'EasyBike, hein, EasyBike qui a relancé le fameux Solex.
Ça nous fait tous rêver.
Ça nous fait rêver.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et c'est parti pour les trophées Europe 1. Chaque jour, ils osent, ils se lancent, on les écoute pitcher devant l'œil attentif et attention, parfois très exigeant de notre patron du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Thierry Mallet, le patron de Transdev, l'un des plus gros opérateurs au monde de transport public.
Et vous avez osé vous lancer il y a 10 jours, Hubert Michaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de la Lessive de Paris. L'année dernière, vous avez eu l'idée de créer une lessive.
Exactement.
Elle a été lancée, là, il y a une dizaine de jours. Je le dis pour nos auditeurs, vous avez 44 ans. Donc, chaque jour, dans la France bouge, on le voit, il n'y a pas d'âge pour se lancer. C'est ouvert et c'est permis à tous. Qu'a-t-elle de différent des autres lessives ? Eh bien, vous allez tout nous dire pendant votre pitch. Vous avez 1 minute.
Merci. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, la lessive que vous achetez tous les jours, la lessive que vous achetez habituellement dans votre supermarché, ben en fait, elle pollue beaucoup. Elle pollue l'air, elle pollue l'eau, elle pollue la terre. Et en fait, à la lessive de Paris, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est la première lessive qui soit vraiment écologique, qui soit vraiment éco-conçue. C'est-à-dire que la lessive de Paris, par exemple, chez nous, on n'a pas de camion. La lessive, elle est fabriquée dans le cœur de Paris, donc on va vous livrer directement à vélo, puisqu'on peut le faire, puisque l'atelier est au cœur de Paris, donc on peut vous livrer chez vous directement à vélo, ce qui veut dire qu'on n'a pas de pollution de l'air, on n'a aucun dégagement de CO2. On a également éliminé le plastique, on est totalement zéro plastique, on a remplacé le bidon en plastique par une bouteille en verre. Il n'y a pas de bidon, il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas d'étiquette en plastique non plus. La bouteille est imprimée. On est également zéro déchet, notre bouteille en verre, elle est consignée, et comme on est sympa et qu'on sait que la consigne, ça peut être un peu embêtant, effectivement, eh bien en fait, on va rechercher les consignes chez vous directement à vélo. Donc on gère aussi cette partie zéro déchet. On a, évidemment, en termes de conception, on a également fait une lessive qui est totalement naturelle à plus de 99%, mais qui est très efficace grâce à des enzymes et grâce à des super parfums très frais.
Et c'est fini, je suis désolé, moi je suis obligé de vous couper, je suis le bad cop, moi.
D'accord.
La good cop, c'est Elisabeth.
Mais en tout cas, c'était très bien.
Merci.
C'était très très bien.
Merci. C'était la good cop. Alors.
Merci pour votre dossier. Alors, votre dossier, une experte l'a passé au crible. Chaque jour, Nathalie Carré de la CCI France, qui accompagne, hein, c'est son métier, hein, elle accompagne les créateurs d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie. La lessive de Paris, les forces et les faiblesses, on l'écoute.
3 points positifs pour l'entreprise La Lessive de Paris. D'abord, on est sur le marché de l'éco-responsabilité, qui est aujourd'hui un vrai sujet important pour une partie des Français. On a 20% des foyers qui se considèrent comme éco-responsables. Deuxièmement, c'est un gros potentiel car il se vend pour 41 euros de lessive par seconde en France. Et puis, troisième point positif, les horaires de livraison étendus pour coller aux contraintes des familles qui travaillent à Paris. Toutefois, un point à améliorer, c'est la différenciation. La différenciation, elle n'est pas assez tranchée pour vous démarquer d'autres marques de lessive écologiques ou zéro déchet, avec notamment les magasins de vrac. Qu'apportez-vous de plus que les autres lessives écolo qui sont conditionnées dans des éco-recharges ou dans des bouteilles issues de déchets plastiques, ou que les lessives que l'on retrouve dans les magasins en vrac? Et au-delà de la protection de la planète, surtout, pour massifier vos ventes, il faut apporter un bénéfice à l'utilisateur, un bénéfice direct. Enfin, une question, comment tenir votre promesse du zéro, zéro camion, zéro plastique, etc., en ciblant la France entière, en ouvrant des usines tous les 50 km avec des marques différentes pour chaque ville? Parce qu'effectivement, la lessive de Paris, c'est très Paris.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré ? Alors, la lessive de Paris, c'est très Paris.
C'est très Paris pour l'instant, parce qu'on est persuadé que la gestion du déchet, justement, et la gestion du zéro carbone, elle doit être faite au niveau des villes. Dans quelques années, on aura 70% des habitants d'un pays comme la France qui vivront en ville. Donc il faut absolument s'attaquer à ce marché de la ville. C'est là où ça se passe et c'est là où on a une vraie solution.
Donc après, ce sera la lessive de Bordeaux, la lessive de Marseille.
Exactement, exactement. Et surtout, on est à un prix hyper compétitif puisqu'on est à 6,90€ le litre de lessive livré chez vous.
Alors comment vous vous différenciez, Nathalie Carré, vous demandez ça. Qu'est-ce qui fait la différence avec vous, avec d'autres? Nous, on en a reçu plein dans
et
la
avec
France
ma lessive que je fabrique tout seul à la maison.
Je ne vous cache pas, on a reçu les petits bidons, on a reçu pH fragrance. Qu'est-ce qui vous différencie
de
ces autres
startups? C'est qu'on est vraiment dans une lessive qui est faite localement et qui permet justement de faire du zéro déchet intégral. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de bidon en plastique. Un bidon en plastique, même s'il est recyclé, c'est sympa, sauf qu'il faut le produire. Et derrière, il faut le recycler. Donc, il faut que des camions qui viennent le chercher. Il y a tout un cycle de recyclage qu'il faut absolument abandonner. Vraiment, la consigne, c'est vraiment la solution.
Thierry Mallet, vous êtes notre grand témoin du jour, patron de Transdev, spécialiste des transports publics. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, là, plutôt avec votre casquette de grand patron?
Bah, écoutez, moi je trouve que c'est une démarche que je trouve intéressante. Cette démarche de production locale, cette démarche de proximité qui s'oppose quelque part à la mobilité. Hein. Je veux dire, si on veut demain d'ailleurs obtenir les enjeux de réduction de notre empreinte, ça veut dire qu'il faudra être plus local. Et je trouve que cette démarche qui va dans le sens du local est une bonne démarche. L'enjeu, c'est effectivement de trouver tout à proximité et pourquoi pas sa lessive aussi.
Et pourquoi pas sa lessive aussi. Merci.
Je voulais juste une petite question, si vous me permettez, Elisabeth. Quand vous dites la lessive de Bordeaux et tout ça, vous avez déjà un projet de développement?
On va faire nos preuves sur Paris. Une fois qu'on aura fait nos preuves sur Paris, bien sûr, nous irons à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, toutes les grandes villes, bien sûr.
Et ben, quand vous aurez fait vos preuves, vous venez nous le dire. Hein,
bien
parce
sûr,
que nous, on aime
plaisir.
Bien donner des nouvelles de nos entrepreneurs. Merci à vous, Hubert Michaud. Ça s'appelle la lessive de Paris. Puis si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour. On a une adresse mail,
ouais, alors
Emmanuel.
Je vous la donne. Vous avez un crayon, vous avez un papier, vous avez tout ce qu'il faut.
C'est parti.
e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats comme ça en route pour les trophées Europe 1.
Allez, Europe 1, il est 13h49. On reste ensemble?
Dans un instant, demain au travail.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, dernière partie de votre émission déjà avec Demain au travail. Et nous sommes toujours avec notre patron du jour, Thierry Mallet, le PDG de Transdev.
Et on va passer tout de suite un coup de fil à Valérie Gigot. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes avec nous, Valérie? Vous m'entendez?
Oui,
Valérie
bonjour.
Gigot, vous êtes bien avec nous?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, tout à fait.
Vous êtes la directrice marketing de Sistancia, c'est un éditeur français en cybersécurité, un dédié au travail à distance, et vous plaidez pour la mise en place du télétravail. Alors ça, on pourrait se dire, bah oui, c'est gentil comme plein d'entreprises,
en
mais
ce
vous,
moment,
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une idée derrière tout ça, parce que vous voulez participer à la sauvegarde de la planète, le mot est fort, mais c'est la vraie idée, parce que vous voulez limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est ça vraiment?
Oui, tout à fait. En fait, effectivement, on a voulu tirer les enseignements de cette situation exceptionnelle que nous avons vécue, donc avec le confinement, où on a vu des entreprises mettre en télétravail leurs collaborateurs pour pouvoir garantir leur activité. Voilà, il faut savoir qu'avant le confinement, il y avait 2 millions de télétravailleurs en France et en quelques jours, il y a eu 3,5 millions de télétravailleurs supplémentaires, avec aussi la question de comment donner accès au système d'information de manière sécurisée, puisque les entreprises ne pouvaient pas donner en fait de poste de travail professionnel, d'ordinateur professionnel, et donc ont dû laisser les collaborateurs utiliser leur poste personnel. Et donc, mettre en place des solutions, puisque ce poste personnel est un poste familial qui va être utilisé par différents membres de la famille. Donc, c'est un poste qui n'est pas forcément à jour en termes de normes de sécurité. Donc, il va être vulnérable. Donc, il faut pouvoir mettre en place des technologies. Donc, on appelle aujourd'hui des technologies zéro trust, c'est-à-dire qu'ils ne font pas confiance à l'ordinateur qui se connecte pour donner accès aux applications et aux données et que le collaborateur puisse travailler finalement de manière sécurité comme s'il était au travail. Donc, cette période de confinement, en fait, a permis de lever ce frein technologique au télétravail. Voilà. Il faut savoir qu'il y avait vraiment un frein technologique sur se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut donner accès au système d'information de manière sécurisée.
Donc, il y avait un frein technologique, vous venez nous l'expliquer, et vous avez décidé, vous avez écrit une tribune qui a été publiée par les Échos, les Cercles des Échos, dans laquelle vous dites, mais nous, on veut que chaque vendredi, plus personne n'aille au travail.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est se dire, voilà, on peut tirer aujourd'hui des enseignements de cette période. Finalement, ce qu'on a pu vivre dans l'urgence au moment du confinement, on peut très bien le vivre de manière normale aujourd'hui et ainsi apporter bénéficié de tous ces apports du télétravail. Donc, on a pu le voir au travers de différentes études. Voilà, certains collaborateurs évoquent une meilleure concentration. Je pense notamment aux collaborateurs qui peuvent être en open space. D'autres, effectivement, disent, ben voilà, moi, ça me permet de passer moins de temps dans les transports.
Et donc ça, c'est bon pour la planète aussi.
Oui, c'est pour parce ça que finalement, oui, tout à fait. Si vous télétravaillez une journée par semaine, ça permet de réduire d'un cinquième les déplacements. Voilà. Et permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à ces déplacements.
Eh bien, merci beaucoup Valérie Gigou, la directrice marketing de Sistancia, éditeur français en cybersécurité dédié au travail à distance. Thierry Mallet, patron de Transdev, un des plus grands opérateurs de transport public dans le monde. Vous, ce serait presque un peu étonnant finalement de dire à vos collaborateurs de ne pas venir parce que pour remplir vos bus, il faut quand même bien qu'ils viennent au travail aussi. Pour vous, c'est intéressant ?
Alors, il est clair que nos chauffeurs, les mécaniciens, toutes les équipes de contrôle, elles vont travailler tous les jours très concrètement parce que sinon, il n'y aurait pas le service. Hein. Les 80 000 collaborateurs qui sont sur le terrain vont travailler tous les jours. Alors, il reste les 5 000 collaborateurs dans les sièges. Et afin de nous assurer qu'on reste tous bien cohérents dans notre pratique, je dirais, professionnelle, j'ai fait en sorte d'inciter à un télétravail limité dans les sièges pour que les collaborateurs des sièges fassent comme sur les collaborateurs sur le terrain, ils aillent effectivement travailler tous les jours parce que ça me paraît important. On a quand même autorisé 2 jours de télétravail.
Mais c'est quoi le message derrière ? C'est de dire c'est dur aujourd'hui d'être conducteur de bus parce qu'il faut avoir le masque toute la journée à son poste de travail et donc il est normal que si on travaille dans un bureau, bah on vienne aussi parce que ça participe à l'aventure collective de l'entreprise. C'est ça l'idée ?
Ça veut dire qu'on est tous pareils. On est tous
et donc on est tous solidaires en ce moment.
On est solidaires, on met tous notre masque, on travaille, on se déplace, on va travailler. Dans un métier où nous vivons du déplacement, effectivement, je dirais, il faut qu'on fasse tous de la même manière. Moi, le télétravail, je suis pour. Hein, dans les entreprises où ça a du sens, dans la mesure où ça crée de la valeur, pour moi, c'est une nouvelle modalité de travail qui s'ajoute à la modalité
mais qui ne doit
travail.
Pas être systématique, ça dépend de l'activité
pour moi,
de l'entreprise.
Je pense que ça ne doit pas être systématique, ça dépend de l'activité, ça va dépendre aussi du choix des personnes.
Eh bien, merci beaucoup Thierry Mallet, le patron de Transdev, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans La France Bouge.
Merci à vous et on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle France Bouge, parce que c'est déjà la fin de votre émission.
Vous jouez au tennis, Elisabeth ?
De temps en temps, oui.
De temps en temps, demain je vous propose un petit match, vous venez en tenue avec votre raquette.
Allez, je me prépare.
Notre invité, le leader mondial du tennis, Babola, une marque française historique.
Allez, à demain 13h, dans un instant, Christophe Ondelatte.